Je vous proposais donc, dans une première conférence, de distinguer sacerdoce ministériel et sacerdoce baptismal. Hier, je crois que le Père José a essayé avec vous de voir l'appel lancé sur la vie du prêtre. Et puis, nous avons convenu que aujourd'hui, demain et d'après-demain, nous parlerons de l'appel lancé par la vie du prêtre, et notamment dans ses actes du ministère. Aujourd'hui, la première table, celle de l'Écriture. Demain, il développera la table de l'Eucharistie. Je crois qu'il nous faut retenir que le prêtre, au sein de l'Église et au milieu du monde, en la personne du Christ, est vraiment au service de l'amour du cœur de Dieu. Il témoigne de cet amour auprès de ses frères. Et il est un vivant rappel, il devrait l'être, que Dieu veut notre bonheur. Aussi, comme le Saint-Père porte le titre de serviteur des serviteurs, et pas seulement de souverain pontife, eh bien on peut dire que les prêtres, serviteurs du Christ, sont les serviteurs de ce bonheur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dans une première conférence à Ars, le cardinal Schönborn a dit que notre identité de prêtre peut se résumer ainsi: le prêtre est l'amour du cœur de Jésus, parce que sa vocation, c'est de servir l'amour du cœur de Jésus pour chacun d'entre nous. Et il ajoutait que dans le catéchisme de l'Église universelle, eh bien, cet amour retentissait comme un appel sur toute la terre. Et c'est bien pourquoi Dieu envoie des apôtres, afin qu'ils répandent la parole du Christ, qu'ils répandent la présence du Christ, Verbe de Dieu. Vous me l'avez déjà entendu dire, nous sommes chacun dans notre identité, non pas des objets, mais définis dans notre être, et nous sommes un peu comme des mots dans une phrase. Il nous faut la présence de Dieu, du Verbe de Dieu, pour que ces mots s'articulent, se coordonnent et prennent toujours plus sens. Aussi, le Verbe de Dieu vient comme un verbe dans une phrase, mettre ensemble chacune de nos existences pour les concilier à cet amour que Dieu veut pour chacun et par chacun déploie au sein de sa création. Le sacerdoce, continuait de faire remarquer le cardinal Schönborn, est sobrement décrit par le catéchisme. L'appel que Dieu adresse au peuple, à son peuple, à travers le prêtre, eh bien, se fait à travers la formation et la conduite du peuple sacerdotal. Il s'agit, et nous allons retrouver là un des tout premiers actes du ministère de Saint Jean-Marie Vianney, arrivant à Ars et rencontrant en chemin un jeune enfant, de lui montrer le chemin du ciel. Le prêtre, au sein de la communauté, tiré du peuple de Dieu, membre du peuple de Dieu, a reçu cet ordonnancement, cet ordre de Dieu, de toujours indiquer le ciel, afin que nous puissions y tendre et déjà le reconnaître comme présent au milieu de nous. Alors, ce sacerdoce au service de la parole, du Verbe, eh bien, est relatif, bien sûr, à toute la grâce baptismale. Chacun d'entre nous a à reconnaître, à entendre l'appel de Dieu. Et la présence du Christ, à travers le prêtre, est garantie dans le déploiement des sacrements. En effet, par la proclamation de la Sainte Écriture et par la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements, c'est le Christ lui-même qui vient pour nous nous indiquer le chemin de la Pâque, de cette ouverture à au-delà de nous-mêmes, cette ouverture qui nous permet d'échapper aux enfermements à la mort du péché, pour accueillir le fruit de la Pâque, le Verbe de Dieu nous remet le souffle de Dieu. Souvenez-vous, au tout premier temps de la Genèse, on voit comment notre Seigneur pétrit toute sa création et, à travers son souffle, l'anime, lui donne vie. Conciliant toutes choses, réalisant toutes choses, il invite l'homme, créature parmi ses créatures, de nommer. Et il permet ainsi que nous comprenions mieux quelle est notre vocation, notre appel au sein du cosmos. Car si, au cours de nos liturgies, pour évoquer la totalité de la création, nous aimons, dans notre langue, parler du ciel et de la terre, on trouve dans l'Écriture plutôt les notions d'espace et de temps, le cosmos et le temps, chronos, cosmos. Eh bien, nous devons reconnaître, à travers nos langages humains, le langage de Dieu, un langage de création, de libération, un langage de vie en plénitude. Fidèle à la bonne nouvelle, à l'Évangile, et nous savons que l'Évangile, ce ne sont pas simplement des paroles transcrites, c'est le Christ encore qui vient nous donner d'entrer dans l'éternité et qui nous interpelle. Le prêtre permet au peuple de Dieu de vivre pleinement la fécondité offerte par le Seigneur. Par toute sa vie conformée au Christ, le prêtre invite ses frères, eux aussi, à accepter du Seigneur le salut. Ainsi, non seulement Dieu se donne, mais nous invitant à le recevoir, il nous permet de devenir, au milieu de nos frères, un témoignage. Le prêtre peut être défini dans sa prière, dans sa pratique de l'Écriture, dans la louange qu'il fait au Seigneur en portant la prière du bréviaire, comme un guetteur envoyé d'auprès de Dieu au milieu de ses contemporains pour sans cesse les avertir et les aider à vivre la pleine communion de vie. C'est l'amour de Dieu qui pousse ce veilleur, ce guetteur, à reconnaître l'amour de Dieu déjà en œuvre en chacun d'entre nous, mais encore à déployer et à accueillir. L'amour n'est pas le terme, il est bien présent, il est le lien qui nous unit. Et la vie sacerdotale, ministérielle, motivée par cet amour, nous révèle la joie de ce don divin. Dans son encyclique « Pastores d'Abo Vobis », notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II, avait souligné combien le prêtre trouvait aussi sa joie dans la contemplation de la croissance du troupeau, une joie qui permet au peuple de Dieu d'entrer dans le sanctuaire, dans la véritable communion. Nous nous souvenons que nous sommes invités à partager une joie immense. Et comment mieux la saisir, cette joie, qu'en la retrouvant déjà déployée dans notre histoire et dans l'histoire de ceux qui nous ont précédés, ceux qui, au chemin de vie, ont su accueillir dans leur joie et leurs difficultés ce salut de Dieu, vivre le temps de la Pâque et le temps de la Pentecôte. Si la Pâque, bien sûr, nous vient plus à l'esprit à travers Jésus, à travers son chemin du calvaire, sa mort et sa résurrection, il ne doit pas nous être étranger. Ce don de l'Esprit fait depuis la croix, qui fait du temps de l'Église le temps de Dieu. Nous sommes déjà participants de cette vie éternelle, de cette grâce du Seigneur, qui sait le salut offert, le salut gagné et qui nous invite sans cesse à le redécouvrir, à l'actualiser. Le saint curé d'Ars était joyeux, aimable, plein d'affabilité, a ajouté le cardinal Huss, en faisant observer que si le prêtre est un guetteur au milieu du peuple de Dieu, c'est parce qu'il s'est nourri particulièrement de cette expérience transcrite dans les Saintes Écritures. Expérience, nous le savons, qui se dit en de multiples langages, que ce soit à travers le langage poétique des psaumes, que ce soit entre ce langage plus méthodique du chroniste qui relate les événements au fur et à mesure, ou même encore à travers le langage de législation, où nous voyons apparaître des lois dans le livre des nombres, bien plus encore, c'est tous ces critères qui nous semblent si quotidiens, allant jusqu'à donner des mesures exactes pour établir les lieux de culte ou la façon de pratiquer le culte. Notre 20e siècle a souhaité dépoussiérer les habitudes humaines qui s'attachaient très strictement à accomplir ce qui était écrit, mais à ne pas en vivre le souffle, le dynamisme. En permettant, dans les années 50, au peuple de Dieu de lire directement l'Écriture, en faisant confiance à l'action de l'Écriture partagée en Église, le pape avait permis dans l'encyclique Divino Afflante de vivre cette expérience en communauté de chrétiens. Et nous avons dans notre bonne ville nombre de groupes de partage de l'Écriture. Alors on pourrait se dire, mais si les chrétiens peuvent entre eux lire la Bible, s'ils peuvent se dire combien bien cette Écriture a du retentissement dans leur quotidien, pourquoi est-il encore besoin d'un prêtre pour la leur partager? Eh bien, c'est ce à quoi je vais m'attacher de répondre dans les 10 minutes qui viennent. Si le curé d'Ars a pratiqué l'art consommé de la réconciliation, il a pratiqué aussi quotidiennement celui de la prédication et du catéchisme. Pour pouvoir parler de Dieu, il faut en être son familier. Il faut au quotidien le rechercher et recevoir de lui la véritable vie. Le prêtre, par son ordination, est invité à partager à ses frères non seulement l'expérience du passé, transcrite dans les Saintes Écritures, mais la présence de Dieu à travers toute l'histoire. Une présence qui n'est pas simplement un compagnonnage statique, mais réellement un souffle de vie. C'est le Seigneur qui est l'acteur de nos existences dans le respect de nos libertés. Comment peut-il être acteur respectueux de nos libertés? Eh bien, c'est parce que, ayant ouvert le salut, ayant acquis le salut, il nous provoque à l'accueillir et à en être témoin. Et à travers toute la Bible, eh bien, nous voyons ces expériences humaines qui ont recherché Dieu et qui ont osé dire Dieu dans des expériences où, habituellement, on aurait peine à le reconnaître. Et c'est par cet art consommé, non pas d'une exégèse, c'est-à-dire d'une étude biblique qui irait décrypter les mots et dirait ce groupe verbal appartient à telle tradition ou à telle autre, mais à travers cet art consommé de voir l'action et la présence de Dieu que le prêtre au quotidien, par le bréviaire, par la vie avec ses frères, vit pleinement la bonne nouvelle. l'Évangile. Il est invité à redire à ses frères parce qu'il mâche et remâche sans cesse la Sainte Écriture, comment chacun peut puiser ses délices dans la vie trinitaire, comment nos difficultés sont cette agonie, non moins réelle que celle du Christ, mais qui nous ouvre pleinement à ce mystère du salut. Ainsi, lorsqu'on regarde les prophètes, peut-on découvrir le prophète Osée, qui rêvait d'un amour parfait et qui découvre, à travers les aléas de l'histoire, la fidélité de son épouse, qui est tenté, bien humainement, de se replier sur lui-même et d'accuser l'autre, faisant ainsi l'expérience déjà traduite dans la Genèse. « C'est pas moi, c'est la faute de l'autre. » C'est pour nous, à travers toute l'Écriture, quand on voit ce genre de réaction, la marque de ce péché qui gravement nous sépare de Dieu. Il est facile de se dire que la faute incombe à l'autre. Nous avons tous une part de la responsabilité, de cette capacité, même si l'autre nous a offensés, de permettre la réponse. Vous savez, c'est une de mes traductions les plus aimées du mot « responsable », permettre la réponse. Quand bien même, comme le Christ, nous serions crucifiés, cloués par l'action négative de celui en qui nous avions posé toute notre confiance et avec qui nous avions rêvé de bâtir un monde juste et fraternel, nous pouvons, dans la mort et la résurrection du Christ, accueillir ce nouveau souffle, ce dynamisme qui nous permet de continuer le chemin et d'être fidèles, posés dans l'éternité, d'ouvrir à celui qui nous a offensés un chemin d'enfantement. Et là aussi, vous savez combien j'aime le mot miséricorde, qui rappelle cette matrice. Nous sommes les matriciers de Dieu. Sans cesse, nous pouvons retrouver cette forme. Il n'y a plus beaucoup de tauliers aujourd'hui, mais nous nous souvenons combien, quand un véhicule avait été cabossé, l'art du taulier permettait de rendre sa forme initiale. Aujourd'hui, fort heureusement, on a des métaux qui gardent la mémoire et le travail en est plus aisé. Nous sommes comme ces métaux ou comme ces tissus, parce que ça existe aussi dans le tissu technique, qui gardons la mémoire parce que nous avons été plongés dans le baptême de ce salut que Christ nous a acquis, et nous pouvons témoigner au monde que même s'il y a eu des bosses et même s'il y a eu des blessures très graves, le salut nous permet d'aller au-delà et d'être réellement restitués à nous-mêmes, hommes et femmes aimés de Dieu. Ce n'est pas sur notre perfection que Dieu nous a aimés, c'est ce que nous sommes pour lui, ses créatures, ses enfants bien-aimés. Le prophète l'a découvert. Il a dépassé sa blessure et il a invité son épouse, elle aussi, à être restituée dans sa dignité. Alors, croyez bien qu'il n'y a pas que les épouses qui soient infidèles, et que les hommes aussi peuvent être restitués dans leur dignité et retrouver un chemin de vie plus conforme à cette œuvre de création, plus conforme à l'amour et à la joie totale du don fait à celui qu'on aime. On pourrait ainsi multiplier à travers la Bible les exemples qui montrent combien nos vies ont besoin d'être conformées à l'amour de Dieu. Et en méditant à chaque instant nos existences, avec l'expérience de nos pères, avec la présence de Dieu, l'action de Dieu, nous pouvons retrouver notre joie même au milieu des angoisses. C'est un mélange paradoxal qui dit les béatitudes. Quand nous proclamons les béatitudes si souvent au cours des funérailles comme au cours des mariages, nous sommes invités à dire aux gens « voici le chemin sur lequel le Seigneur nous attend, dans lequel il nous accomplit, même si nous n'y sommes pas encore très concrètement à travers notre chair, parce que les uns les autres, nous avons à nous ajuster à cet amour de Dieu. Les ajustements, ça produit toujours un peu des frottements, des échauffements. Eh bien, ce poids du mystère qui nous fait découvrir que la croix, même si elle n'est jamais légère, est l'instrument, l'autel de la vie, nous pouvons sans cesse voir ainsi que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, cette alliance est renouvelée dans l'expérience du Christ. En pratiquant la lecture de la Bible, en pratiquant la louange et en éveillant ses frères à reconnaître dans leur existence, comme le rappelle saint Paul, la page que Dieu écrit, nous sommes la page que Dieu écrit, dit saint Paul, eh bien les prêtres sont engagés de façon totale et durable, telle est leur vocation, celle assumée, à dire l'action du Verbe de Dieu, l'action du Christ. Saint Jean-Marie Vianney, en le relisant, m'étonne beaucoup, parce qu'il va jusqu'à dire qu'à travers l'Écriture, le ministère de la parole, quand on la garde et la met en pratique, eh bien, on est plus agréable à Dieu que lorsqu'on vient communier. En effet, il est des personnes qui viennent communier par devoir et qui, une fois retournées, sorties de l'assemblée, eh bien, puisqu'elles ont satisfait à la rencontre avec Dieu, ne mettent plus en œuvre ce don merveilleux. Elles oublient qu'elles sont tabernacle de la présence de Dieu, invitées à être action de la présence de Dieu. Tandis que lorsque nous recevons l'Écriture, elle nous transforme, elle nous fait penser à et nous invite à. Bien sûr, on ne peut pas se contenter seulement d'entendre. Vous avez bien compris ce que veut dire saint Jean-Marie Vianney. L'Écriture vécue, mâchée et remâchée, nous pousse sans cesse à devenir à l'image et ressemblance de Dieu. Et ainsi, on peut bien, en effet, à la suite de la table de la parole, passer à la table de l'Eucharistie, devenir ce que nous recevons par l'action même de Dieu et non pas simplement par notre volonté. C'est notre acquiescement à la volonté de Dieu qui permet, à travers l'Écriture, de mieux accueillir et déployer l'action de Dieu reçue dans l'Eucharistie. Pour un simple petit curé qui n'était pas digne du séminaire, eh bien, comme saint Jean-Marie Vianney était allé loin dans la théologie. Je ne sais pas si je serais allé jusqu'à dire ce qu'il osait dire à son époque. Et je crois que si on ne prenait pas le temps de la réflexion, eh bien, on pourrait même s'en effrayer. Saint Jean-Marie Vianney avait déployé cette réflexion théologique en méditant un passage des Évangiles. Souvenez-vous, ce moment où quelqu'un, pour honorer Jésus, dit « Bienheureuses les mamelles qui vous ont nourri et les entrailles qui vous ont porté. » Et Jésus répond « Bienheureux, bien plus heureux encore, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » On voit ainsi quel est le rôle du prêtre en son ministère de prédicateur et de témoin de la parole, de témoin du Verbe. Ce n'est pas seulement d'être au milieu de ses frères et de dire, mais lui aussi, comme tout baptisé, de vivre. Et parce qu'il est... Vous savez, le ministère sacerdotal en plénitude repose dans la personne de l'évêque, celui qui a regard au-dessus, qui voit plus loin. Les prêtres sont ses collaborateurs avisés pour des communautés plus locales, plus restreintes. Eh bien, parce qu'il a ce regard, non pas supérieur, mais celui de voir au-dessus, non pas de surveillant dans le sens « je vous surveille pour vous punir ou pour vous réprimer », mais de celui qui voit plus loin et invite ses frères à dépasser le rocher qui semble encombrer le chemin, alors rappeler qu'il y a encore le chemin après le rocher, ou tout simplement après le petit caillou dans la chaussure qu'il faut prendre le temps d'enlever pour pouvoir ne pas être blessé et reconnaître eh bien, les merveilles qui nous attendaient encore, merveilles de contemplation de cette création. Et je crois que l'Écriture, la Sainte Bible, dit la vocation éminente que nous avons par notre baptême. Peut-être, plus que toute autre religion, nous avons été portés, dès le début de la révélation, à une vision planétaire. Nous vivons depuis les origines, la globalisation, non pas celle qui enferme, mais celle qui invite à dépasser notre petit microcosme pour toujours le référer à l'histoire dans laquelle nous sommes plongés, et même à la grande histoire, aux autres cultures, et même plus loin encore, nous venons de le redécouvrir, mais les papes successifs, les conférences épiscopales l'ont déjà dit depuis très longtemps, redécouvrir le sens de la création dans sa réalité et dans sa destination, voulue par Dieu, tout entière accomplie en Dieu seul. Si nous savons regarder dans l'Écriture, nous trouverons de multiples textes qui disent ce projet de Dieu qui n'était pas simplement sur les petits bons hommes que nous sommes, bonnes femmes, mais réellement dans ce partage, dans cette vie déployée qui fait de nous une communion de vie, une commune union animée par celui qui l'a accompli, qui l'a désiré, qui l'a réalisé, notre Seigneur et notre Dieu. Le cardinal Hums soulignait ainsi que si saint Jean-Marie Vianney a été un infatigable prédicateur et un grand priant, qu'il a pu, à travers cette prédication, à travers le fait qu'il scrutait les Écritures, nourrir ses frères de la présence de Dieu, eh bien lui-même avait été nourri. Nourri par son curé, lorsqu'il était enfant. Nourri par ce curé qui ne s'est pas contenté du diagnostic très restreint des professeurs du séminaire qui disaient « il est trop bête, il n'ira pas loin ». Ce prêtre, M. Ballet, avait su voir la véritable vocation de saint Jean-Marie Vianney et assurer cette vocation, permettre l'appel de Dieu, l'ouverture de l'appel de Dieu dans la vie de saint Jean-Marie Vianney. Ainsi, le cardinal préfet de la Sacrée Congrégation du clergé, eh bien, ose dire que sans ce curé du village de saint Jean-Marie Vianney enfant, il n'y aurait pas eu le curé d'Ars. Si je souligne cet épisode, eh bien, c'est pour nous dire que, en effet, dans nos vies, s'il n'y avait pas à l'origine quelqu'un qui vient nous dire ce qu'il a reconnu et pas seulement appris, ce qu'il a commencé de vivre pleinement de l'amitié avec Dieu, eh bien nous en resterions à des connaissances livresques et on pourrait dire à la moindre épreuve « Oh oui, mais tout ça c'est que des histoires ». Souvenons-nous comment Rudyard Kipling finissait ses petites histoires. À chaque fois, il disait, eh bien, mais c'est une autre histoire, parce qu'il ouvrait à plus loin. Il n'est pas d'autre histoire. Il n'en est qu'une, celle de l'amour déployé par Dieu, et qu'il nous faut reconnaître en chacune de nos existences comme la puissance d'un souffle, d'un verbe qui aujourd'hui encore se déploie dans des paroles humaines, mais surtout dans la chair humaine. Car notre Dieu, s'il nous a sauvés, ce n'est pas simplement en proférant des mots, mais en devenant existence et en permettant en sa chair que nos chairs soient elles aussi appelées à la gloire dans le partage de vie. Voilà comment la Sainte Écriture, quand on la pratique et quand on la proclame, que ce soit en peuple de Dieu ou bien parce qu'on en a reçu la mission, nous permet de découvrir sa puissance. Inviter chaque jour à proclamer la parole. Nous proclamons non pas des mots, mais celui qui donne la vie, celui qui fait de nous des vivants, le Christ, le Verbe de Dieu.